c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Attitude, votre radio en Charente avec Alain Jeanne.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente en Charente sur mariemorin.fr.
Chute, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc à Ruffec, votre référence culturelle en Nord-Charente.
Chute, on écoute la télé avec L'Angélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glacés artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Et L'Angélis, c'est maintenant 3 boutiques à Royan, Paris et Bordeaux.
Attitude.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Comme chaque lundi à 13h et mardi à 19h, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Chute, on écoute la télé hebdo sur Attitude, votre radio en Charente. Pendant une heure, on va passer en revue toute l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors détendez-vous, on s'occupe du reste. Voici tout de suite le sommaire de cette semaine.
Chute, on écoute la télé,
le talk show radio.
Et au sommaire de ce nouveau numéro de Chute, on écoute la télé. Aujourd'hui, nous allons consacrer une large partie de cette émission à la sortie du film Rose qui sortira mercredi dans les salles dans une poignée de secondes. Aurélie Saada, sa réalisatrice, ex du groupe Brigitte, et ainsi que Grégory Montel et Horatica seront nos invités exceptionnels pour en parler. Louis Baudin viendra nous parler météo. À quelle météo faut-il s'attendre cet hiver? Comment se prépare un bulletin météo à la télévision? Le météorologiste et présentateur météo de TF1 viendra donc tout nous dévoiler sur les coulisses. On aura également le plaisir de parler de nos coups de cœur télé avec Patrick Guérino à l'affiche de Camping Paradis ce soir sur TF1. Les Bleus font du ski, c'est tout un programme. Et en plus, un épisode axé sur le personnage de Xavier. Et puis enfin, l'émission, c'est l'événement samedi, l'élection de Miss France 2022 en direct sur TF1. Nos trois Miss régionales vont s'extirper quelques instants des répétitions pour venir nous livrer leurs dernières impressions quelques jours avant l'élection. Ambrande Rieux, Miss Aquitaine, Julie Bève, Miss Limousin, et Lolita Ferrari, Miss Poitou-Charentes, seront donc nos invités en fin d'émission.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Et notre coup de cœur ciné cette semaine, ça s'appelle Rose. Ça sort mercredi dans les salles. On va recevoir Horatica et Grégory Montel dans un instant. Mais on va démarrer cette spéciale avec la réalisatrice de ce très beau film, Aurélie Saada, qui est avec nous. Bonjour Aurélie.
Bonjour.
Vous connaissez peut-être Aurélie déjà, évidemment, avec les Brigitte qui nous ont fait chanter, danser, nous, au Francofolie. J'ai des souvenirs avec vous, Aurélie. On a vraiment dansé, on a passé de bons moments sur scène. Mais là, c'est un tout autre exercice, celui de réalisatrice. Et franchement, quand j'ai vu votre film, j'ai eu la chance de le voir en avant-première à Angoulême. Je me suis dit, mais pour un premier film, mais quel coup d'essai, c'est incroyable. Ce film est magnifique, franchement.
Ah waouh, merci beaucoup, je suis ravie. C'est marrant, c'est une histoire qui trottait dans ma tête et qui m'a attaquée comme ça, très fort. J'ai eu besoin d'écrire ce film, de réaliser ce film. C'était vraiment quelque chose d'assez puissant. C'est drôle parce que je pensais que la musique comblait totalement ma vie, que j'avais pas de place pour autre chose dans mon cœur. Et quand cette histoire est venue en moi, je me suis retrouvée à diriger une équipe, à tourner, à monter ce film, j'ai réalisé à quel point j'aimais ça et que j'avais deux amours maintenant. Souvent je me dis c'est comme avoir un deuxième enfant. Quand on a un premier, on croit qu'on pourra pas aimer le deuxième comme on aime le premier, et en fait c'est bizarre, mais c'est notre cœur qui grandit, c'est pas notre cœur qui se divise.
Et là, pour une première réalisation, c'est juste un film magnifique. On y raconte l'histoire de Rose qui perd son mari. C'est une ode à la vie, une ode à l'amour à la fois, ce film. Et la petite histoire dit que vous avez eu cette idée justement lors d'un dîner de raconter cette histoire.
Ouais, il y a une des scènes du film. Alors, tout le film est très inspiré de ma vie, de ma famille, des femmes qui m'entourent, voilà, et de mes oncles, de mes tantes. Et il y a une scène particulière qui est un peu une scène de dîner,
qui est une scène. C'est la scène clé.
C'est la scène clé. C'est une scène qui est très très importante pour moi parce que c'est une scène qui s'est produite chez moi, vraiment. Il y a quelques années, je reçois des copains, de la famille. J'adore mélanger les cultures, les générations autour de la table. On devait être une vingtaine comme ça à la maison pour un dîner. Et il y a la dernière grand-mère de ma famille qui vient de perdre son mari, qui est très fatiguée, très malheureuse. Et à cette même table, il y a Marceline Loridan-Ivens, qui était dans le même convoi que Simone Veil pour Auschwitz, qui est une rescapée de la Shoah, qui a écrit des livres incroyables, qui a réalisé des films et des documentaires absolument magnifiques. magnifique. Marceline avait quelque chose de très particulier, c'est qu'elle était pas juste une survivante, c'était une ultra-vivante. Elle réveillait les gens, elle parlait de sexe, elle avait un appétit de vie complètement dingue, elle buvait de la vodka comme personne, elle fumait des joints. Ah non, alors qu'elle avait 93 ans, c'était complètement fou. J'ai vu cette grand-mère complètement hypnotisée par Marceline. Et je l'ai vu avoir un déclic. J'ai vu Denise avoir les joues roses et se dire que peut-être, elle aussi, elle pouvait vivre jusqu'au bout. Que peut-être elle n'était pas juste une mère, une grand-mère et une veuve, mais peut-être qu'elle était une femme et qu'elle avait le droit d'en jouir. Et ça a été un déclic pour moi de voir ça. Quelque chose de totalement irrésistible. J'aime les révolutions intimes. J'aime les femmes qui se réinventent. J'aime qu'on puisse se dire que tout est encore possible, qu'on peut sans cesse se réinventer, s'imaginer comme on ne s'imaginait pas. Et j'ai pris mon ordinateur et les invités sont partis, j'ai écrit le synopsis de Rose. Et pour moi, cette fois-ci, ce n'était pas une chanson.
Françoise Fabian s'est imposée tout de suite pour ce rôle de Rose qu'elle interprète magnifiquement.
Totalement, parce que Françoise, elle a de l'Orient en elle. Elle a grandi en Algérie, elle connaît ça, elle connaît cette culture-là, un peu de loin, mais un peu de près aussi. Elle chante en arabe, d'ailleurs, dans le film, c'est chouette, comme tout. Je lui ai même fait faire des macroudes dans le film, à un moment donné, cette pâtisserie orientale. Et puis, elle est une femme audacieuse, aventurière, elle ose, elle ne triche pas, elle ne ment pas, elle fonce. Et elle se réinvente tout le temps, Françoise. Et je ne voyais qu'elle capable de parler d'une métamorphose à ce point, à 80 ans, parce que le personnage de Rose a 80 ans, ce qui est peut-être un peu culotté de ma part. J'en suis tellement heureuse, parce que vieillir, c'est le chemin qu'on prend tous, a priori. Il serait bon d'arrêter d'invisibiliser le désir de l'âge qui avance.
Ouais. Et puis si on peut le faire dans la joie, effectivement. Et cette métamorphose que l'on voit sur le personnage au fur et à mesure avec Françoise, ses enfants qui n'ont pas l'habitude de voir leur mère de cette façon-là. On va en parler avec Or et Grégory dans un instant. Mais c'est vrai que souvent, quand les personnes changent comme ça, c'est souvent le regard des proches qui est difficile à changer.
Bien sûr, mais même le sien à elle, parce qu'elle n'est pas complètement sûre de savoir ce qu'elle veut. Elle vit des questions, en fait. Elle est pétrie de questions et c'est ça qui est merveilleux. Les questions, c'est ce qui nous anime. On a le droit de remettre en question les choses tout le temps, de les faire bouger tout le temps. C'est le mouvement.
Et la musique est magnifique aussi parce qu'on peut entendre votre voix, Aurélie, tout au long de ce film avec des très belles musiques, musique originale. Vous avez écrit, composé aussi, vous avez tout mis dans ce film.
Ouais, je me suis bien amusée avec la musique. J'ai écrit, j'y chante en hébreu, en arabe, en italien, en yiddish, en français. Je me suis amusée avec des instruments qui me sont chers, une musique qui m'est extrêmement précieuse, qui est la musique orientale, qui est la musique de mon enfance, de mes racines. J'ai pu travailler avec des violonistes, des violons arabes, du oud, de la darbouka, des instruments qui sont si précieux pour moi. Et de composer cette partition, ça a été un vrai voyage intime. Pour moi aussi, à ce niveau-là. Alors, les gens se rendent pas compte que c'est moi qui chante partout, parce que comme je chante en arabe, en hébreu, on peut pas se douter. Et tant mieux, j'ai l'impression d'être comme une petite souris qui est venue se glisser dans le film à plein d'endroits, comme ça.
Oui, c'est vrai, hein. Il y a quelques petites apparitions. Je les ai remarquées, aussi. Comment on se sent, là, à deux jours de la sortie, Aurélie?
Je suis excitée. Je suis tellement heureuse. Je suis excitée parce que...
On puisse se voir au plus grand nombre, puisse se partager.
Bah, qu'ils puissent se partager, parce que quand on fait quelque chose, c'est qu'on en est fier et qu'on est heureux de l'objet qu'il est. On n'a qu'une seule envie, c'est de le donner. Et les quelques personnes qui ont pu le voir jusqu'à maintenant m'ont dit: c'est incroyable, ce film c'est ma vie. Et alors, ce qui est dingue, c'est que les gens qui m'ont dit ça, ils ont tous les âges et tous les sexes. Donc ça me touche, ça veut dire que finalement, alors que je pensais raconter quelque chose d'extrêmement intime, il y a quelque chose qui me dépasse, qui est beaucoup plus universel que ce que je croyais. Et ça, c'est chouette quand on écrit quelque chose.
Vous l'avez compris, Rose, c'est le film à ne pas manquer de cette fin d'année. Allez au cinéma, voilà, le voir. C'est le premier film d'Aurélie Saada. Vous allez être vraiment surpris par la beauté de ce film. On vous le conseille. On va écouter la bande-annonce, Aurélie. Et juste après, c'est Oratika et Grégory Montel qui vont nous rejoindre. À bientôt.
À bientôt et merci.
Et merci d'avoir été avec nous.
Maman, tu décroches? Non, toujours pas.
Les Juifs dans le deuil ont une étrange habitude, ils arrachent un peu de leurs vêtements. Il va falloir apprendre à vivre avec la déchirure.
Ça va pas du tout, maman, là. Faut peut-être qu'elle aille voir un psy.
Un psy? Non. On lui prend une femme de ménage. C'est très bien.
Et vous faites quoi, là, Evie?
Je suis veuve.
Non.
Qu'est-ce qui vous ferait plaisir?
Je sais pas.
T'occupe-toi.
Quoi, m'occuper de moi? À quoi ça sert de prendre soin de moi à mon âge?
Moi, je vous trouve très bien, très... très belle.
Notre spécial rose continue dans un instant. Grégory Montel et Horatica nous rejoignent. Alors surtout, bougez pas, on revient juste après ça.
Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Et on continue notre coup de cœur ciné cette semaine avec Rose. Hein, vous le savez, ça sort mercredi au cinéma. On a adoré ce film au Festival d'Angoulême et on va continuer à en parler avec ceux qui jouent le rôle de Sarah et Pierre qui sont avec nous. C'est Horatica et Grégory Montel qu'on a plaisir à retrouver. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour Alain.
Merci d'être là. Je l'ai dit à Aurélie il y a quelques instants, ça a été vraiment un de nos films coup de cœur qu'on a pu voir un peu avant tout le monde. Et ça, on a eu vraiment cette chance. C'est un film d'une finesse incroyable et puis vraiment une ode à la joie de vivre. Et ça, qu'est-ce que ça fait du bien, surtout en ce moment. Or, vous avez aussi ressenti ça en le tournant?
Oui, c'est une ode à la révolution intime et à l'amour et comme quoi rien n'est jamais terminé et que tout est possible et donc on peut vivre jusqu'au bout à 200%.
Exactement. Grégory, c'est ce que tu as ressenti aussi en le tournant?
Mais je trouve que le mot ode à la vie, à la nouvelle vie, à la vie qui reste, ça me va très bien. Tu as tout à fait raison.
Alors on va parler un petit peu plus des personnages. Comment on pourrait définir Sarah? Or,
Sarah, c'est une femme qui... Alors je suis accomplie professionnellement, mais on va dire que j'ai vécu une séparation dont je n'ai pas fait le deuil. Ça m'empêche d'avancer et je suis un peu bloquée là-dedans et je me conforte un petit peu là-dedans. Et ce qui va arriver à Rose, ma mère, jouée par Françoise Fabian, va faire que ça va m'aider à avancer aussi dans ma vie personnelle.
À un moment donné, entre la mère et la fille, ça va presque être la fille qui va être la plus sage des deux, finalement.
Oui, mais comme parfois, oui, c'est ça. C'est que c'est ma mère qui révolutionne les choses, qui devient un peu plus rock'n'roll, et ça va me faire me réveiller aussi. Oui. Après, on voit aussi nos parents, voilà, ou des gens qui sortent de leur case, et tout d'un coup, on a du mal à comprendre et à l'accepter. Et puis on s'aperçoit que c'est pas mal aussi de bouger un peu les lignes.
Ça fait du bien, c'est sûr. Pierre, comment on pourrait définir?
Pierre, c'est un homme qui s'est toujours voulu comme un homme parfait, qui a fait des études parfaites, qui est un médecin à peu près sans encombre, qui est probablement chef de service, qui a fait les choses comme il fallait les faire au moment où il fallait les faire, qui a une femme et des enfants, qui a peut-être du mal à se laisser vivre et à laisser aller ses émotions, qui s'est peut-être enfermé dans un schéma, en tout cas dans un archétype. Et cette femme-là, sa maman, en vivant ce changement dans sa vie intime, va entraîner certainement son fils dans un changement de sa propre vie intime à lui. C'est-à-dire que cette femme-là va être le déclencheur de plein de bouleversements à l'intérieur de cette famille. Voilà. La décision de ne pas mourir fait que les enfants vont être obligés de s'ouvrir davantage au monde.
Alors nous, on a ressenti une émotion intense en regardant le film en tant que téléspectateur. Mais vous, une fois que vous l'aviez tourné, quand vous l'avez vu monter la première fois, vous avez ressenti quoi tous les deux?
Moi, j'ai été bluffée. C'est-à-dire que je me suis vraiment laissée prendre. J'ai pleuré deux fois. J'ai ri aussi. Je trouve qu'elle est montée d'un cran par rapport... et pourtant, le tournage, on était tellement heureux sur ce tournage. Avec Françoise, évidemment. Mais avec Grégory et Damien, on s'entendait tellement bien. On se faisait des bouffes. C'était super. C'était un tournage heureux, basé sur un très beau scénario. Mais après, à la projection, ouais, c'est ce que je vous disais. Quoi, j'ai pleuré deux fois. J'ai ri. J'étais complètement bouleversée par ce film. C'est un film vraiment magnifique. Enfin, on en ressort avec une pêche et une envie de bouffer la vie, quoi. Enfin, c'est de dire aux vieux autour de nous, mais allez-y, quoi. Allez-y jusqu'au bout, mais allez-y.
Greg, toi, tu as ressenti comment quand tu l'as vu la première fois monter aussi?
J'ai évidemment retrouvé tout ce qui m'avait séduit à la fois dans le scénario et tout ce qui m'avait séduit les premiers jours de tournage, à savoir un décorum sublime, une ambiance, une écriture, enfin, et puis la famille, quoi. J'aime trop ça, la famille. Elle est incontestablement sublimée dans le film, la famille.
Alors on connaît, nous, Aurélie Saada, chanteuse, incroyable. Là, en tant que réalisatrice, elle est comment, Aurélie, sur un tournage?
Elle est très détendue, elle est très calme, une sorte de j'allais dire, de force tranquille. Toujours super bien sapée, en plus, mais tranquille, quoi. Et elle sait ce qu'elle veut, et en même temps, elle nous laisse beaucoup de liberté. Et il y avait un... Ouais, ça se faisait dans un truc très tranquille, quoi. C'était assez fou, en fait.
Du coup, ça vous apaise, aussi?
Oui, du coup, ça nous... Enfin, non pas qu'on en avait besoin d'être apaisé, mais en tout cas, ça nous met en confiance, tout à fait.
C'est important. Bah oui, bien sûr, gérer un premier film de cette manière-là, avec autant de facilité, non, c'était... Et puis, en mettant une ambiance, enfin, elle a posé le truc, et on est rentré dans son monde. Moi, je suis rentré dans le monde d'Aurélie Saada. Ce film, c'était le monde d'Aurélie Saada, et ça m'a beaucoup plu. Et moi, j'aimerais bien y retourner plus souvent, dans ce monde-là.
Voilà, le message est passé.
Merveilleux d'Aurélie Saada et de sa sœur aussi qui cuisine si bien. Enfin, dans le monde merveilleux des Saada.
Il y a une scène particulière qui vous a marqué au tournage, par exemple, une anecdote à nous raconter?
Je me souviens d'un tournage particulièrement heureux, mais en tout cas la scène de avec mon ex, c'est un tournage, c'est une journée dont je me souviens parce qu'on a pris la journée pour la faire et on a fait que en plan séquence. Et donc tout d'un coup, c'est comme aller au théâtre, quoi. Enfin, c'est comme travailler dans le théâtre, c'est que tout d'un coup, on vit les choses de A à Z, on vivait cette séquence de A à Z, et moi j'adore ça parce qu'on a le temps de recréer des choses et d'aller chercher des choses différentes à chaque fois et où les choses arrivent différemment. Et ça, c'était vraiment une journée particulière, ouais, dont je me souviendrai.
Pour toi, Grégory?
Moi, je dirais que c'était les scènes de repas. Moi, j'adore les scènes de repas. Je suis très Claude Sauté.
Il y en a eu, hein.
Eh ben oui, mais parce que je me régalais. C'était toujours bon. Et du coup, je trouvais que ça m'aidait dans le jeu. Tu vois, on joue toujours mieux quand on mange, hein, de toute façon. On joue toujours mieux quand on mastique. Quand on mange pour de vrai. On joue bien quand on... Et comme c'était très très bon. Tu sais, d'habitude, tout est réchauffé, tout ça. Là, c'était fait à la dernière minute par une vraie chef, à savoir Chloé. Et du coup, je me rappelle de ces moments intense de bouffe et Dieu sait si on mange là-dedans et j'ai pris 8 kilos. Oui.
Ça ne se voit même plus, mon cher Greg. Les projets pour la suite, alors 10%, on va avoir un téléfilm événement, raconte-nous, Gabriel n'en a pas fini. On pensait que la 4e saison était la fin aux grandes dames de tous les fans, mais non. Ils vont être de retour bientôt.
Pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de date de tournage, mais je sais qu'il y a des gens qui travaillent dessus. Sur l'idée d'un téléfilm de 90 minutes. Voilà.
On a hâte de retrouver, en tout cas. Or, les projets pour 2022?
Je commence le tournage du premier film d'Anis à Bonnefond, qui est l'adaptation du bouquin La Maison d'Emma Becker, avec Anna Girardot et Rossi de Palma. Et ensuite, je fais un 2x52 minutes avec Eric Cantona.
Super. Bon, bah merci en tout cas d'avoir été avec nous. Rose, ça sort mercredi au cinéma. Alors, le petit message d'Aurélie, on va le repasser aussi. Regardez bien le film si vous allez au cinéma jusqu'à la fin du générique. Vous aurez une petite surprise et prenez même une petite photo de l'écran, ça peut vous servir. Voilà, je ne vous dis que ça. On va se quitter avec un petit extrait. Rose, c'est donc mercredi dans les salles. Merci Grégory, merci Aurélie, à bientôt.
Merci beaucoup Alain.
Merci.
Bonjour madame, est-ce que je peux vous aider?
Mais pourquoi vous parlez comme ça?
Je vous entends très bien.
Mais où tu vas avec ce maquillage aussi? Qu'est-ce que t'as en ce moment?
Le dernier homme qui m'a dragué, c'était mon mari.
Ton vœu le plus cher, tout de suite maintenant.
Baiser.
Ok.
Amène-moi au Galeries Lafayette. C'est papa qui te manque, hein? Moi aussi, il me manque. Et je suis toujours là. Il y a des choses à vivre encore.
Et toi, Rose, ce serait quoi ton plus grand vœu, là, maintenant, tout de suite?
Que cette soirée ne finisse jamais.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Et notre coup de cœur télé est consacré évidemment au nouvel épisode inédit de Camping Paradis qui va nous emmener prendre un bon bol d'air frais à la montagne ce soir sur TF1 puisque les Bleus font du ski. C'est le titre de cet épisode spécial tourné à la montagne qui va nous emmener dans l'hôtel du père de Xavier, Patrick Guérineau, qui est justement notre invité. Bonjour mon cher Patrick.
Bonjour, comment ça va?
Ça va très très bien, je suis très heureux de t'avoir Patrick, surtout que Xavier est vraiment au cœur de cet épisode, dis-moi.
Exactement. Oui, c'est une belle histoire. Effectivement, le personnage de Xavier se retrouve à embarquer sa petite bande de copains à la montagne, à Morzine plus précisément, pour retrouver son père, qui est, lui tient un hôtel là-bas. Et Xavier, il va un petit peu à reculons parce qu'il a une relationnelle un petit peu particulière avec son père, un peu distant. Et voilà, l'impact de la présence ou de la non-présence de son père pendant son enfance est lourde. Et donc du coup, ça va être l'occasion pour Xavier de retrouver son père, de le découvrir. Ces deux personnages de s'appréhender dans leur vie d'adulte, peut-être on l'espère, on le verra ce soir, de se rabibocher, de se retrouver et que tout ça soit une belle histoire. Et voilà, ça a été un plaisir partagé avec toute l'équipe de tourner ce film à la montagne, en extérieur, qui évidemment est une bulle d'air fantastique pour nous. Quand on nous a annoncé ce tournage, et toute l'équipe était absolument ravie à l'idée de changer aussi de décor, et pour nous et pour le public. Et c'est vrai que ce film est traité un peu comme un unitaire. Alors je l'ai pas encore vu, c'est que bon, pas mal de gens l'ont vu, moi je l'ai pas vu, j'ai fait le choix de pas le voir et de le regarder en direct, c'est comme ça que je fais.
Je le regarderai ce soir. Ah, moi j'ai pas résisté, hein. Je le dis tout de suite. Ah ouais. Moi j'ai pas résisté parce que d'habitude Xavier qui nous fait beaucoup rire, et bien là j'ai trouvé que tu nous amènes des jolies scènes d'émotion ce coup-ci avec le personnage de Xavier qui d'habitude a plutôt habitude vraiment de nous amener ce côté comédie. Et là c'est vraiment une autre palette que tu nous montres de Xavier justement ce soir.
Ah bah écoute, je suis très content de t'entendre dire ça, parce qu'effectivement c'était évidemment mon projet de pouvoir raconter nos personnages différemment et de raconter Xavier avec un peu plus de peut-être de profondeur que ce qu'on a l'habitude de le voir dans, comme tu dis, dans des versions un petit peu comédie enfantine du personnage de Xavier. Là il y a quelque chose qui touche plus son être intérieur, et voilà, il y a quelque chose d'assez touchant, et j'aime t'entendre dire ça parce qu'effectivement c'était mon souhait sur le plateau, encore une fois, de rajouter une couche d'humain dans mon personnage et de pouvoir raconter autre facette de ce Xavier qui effectivement, au-delà d'être sympathique et drôle, a un vrai cœur, et il y a quelque chose de touchant dans cette histoire de retrouver son papa. Je trouve que ça reste un sujet toujours un peu touchy. Enfin voilà, je pense que les enfants qui perdent de vue leurs parents pour X raisons, je pense que ça peut parler à pas mal de gens et de nos spectateurs ce soir.
Alors surtout qu'en plus ce côté comédie va être largement amené par le personnage de Candy et d'Audrey qui va tenter d'apprendre à faire du ski mais avec des enfants. Exactement. Alors là franchement on va beaucoup rire évidemment, sans parler de Parisot qui évidemment va s'inviter à la fête.
Mais exactement, on a nos personnages forts de comédie, Christian Parisot qui évidemment ne pouvait pas ne pas faire partie de cette aventure à la montagne. Ça va donner lieu à quelques scènes cocasses, bien rigolotes, et voilà, vraiment on s'est évidemment marré en tournant ce film, et je pense que personne ne sera déçu parce que pour le coup toute cette partie comédie là, la partie tenue par effectivement Patrick Parrou qui joue Monsieur Parisot dans son rôle de campeur excité au grand cœur à la montagne, effectivement va nous régaler forcément. Et Candy, comme tu dis, qu'effectivement le personnage d'Audrey qui découvre elle pour la première fois la montagne, se trouve en situation d'être obligée d'apprendre à skier, et effectivement c'est plutôt rigolo de la voir évoluer dans le monde des piou-piou. Effectivement pareil, ça laisse la place à pas mal de scènes de comédie qui ont été aussi plaisantes à tourner, qui j'imagine à regarder pour nous, pour vous ce soir.
Ah bah oui, c'est clair. Alors entre Parisot qui va faire la connaissance de Norvégiens qui vont y faire goûter absolument des choses improbables, c'est sans rappeler évidemment des scènes mythiques des bronzés font du ski.
Bah, bien sûr.
Mais à la fois c'est vraiment le petit clin d'œil quoi.
Bien sûr, il y a toute une petite série de petits clins d'œil. C'est notre bronzé font du ski à nous. Hein. C'est évidemment les Bleus font du ski. Voilà, on a évidemment truffé de petits clins d'œil des films qui nous ont fait marrer il y a quelques années. Et évidemment qu'on fait un clin d'œil au bronzé et au film de Patrice Lecomte dans cet épisode ce soir.
Alors l'épisode est réalisé en plus par Laurent, mais franchement, Laurent, ouais. Vous devez tous, mais tellement être soulagés de voir enfin l'épisode diffusé ce soir, quand on sait, nous derrière journalistes et vous, le tournage épique, parce que vous avez commencé à tourner pendant 4 jours en 2020, arrêté par le confinement, vous aviez pas de neige, vous revenez en 2021, non. Et puis là, ce coup-là, c'est carrément les stations de ski qui sont à l'arrêt au moment où vous tournez, non?
Exactement, ouais. Ça a été un tournage effectivement épique, comme tu dis, que on a commencé ce film au moment de la première crise Covid et du premier confinement, c'est-à-dire qu'au moment où on était au pire de l'angoisse nationale de ce qui allait se passer, c'était une période très très étrange. On a commencé à tourner, comme tu dis, 4 jours. Et en plus, effectivement, les conditions d'enneigement étaient très moyennes, donc c'était très difficile de pouvoir raconter les vacances au ski, hein, sur la neige, c'est compliqué. Avec cette espèce de chape de plomb qu'on avait par rapport à l'arrivée du Covid. Il y a cette espèce de d'inconnu, et c'est à ce moment-là où on nous a annoncé le premier confinement, qui a été donc le fameux confinement le plus dur à gérer, et nous on nous a évacué de la station de Morzine en quelques heures. Donc à un moment donné on a vraiment cru que ce film se ferait jamais, et puis on a attendu donc les fameux confinements, et un an après on a pu y retourner en janvier de l'année dernière, et effectivement avec un enneigement parfait, avec du soleil, avec des conditions superbes, au-delà du fait qu'effectivement la station était fermée, qu'on était encore sous confinement, et que ce tournage se déroulait encore une fois dans des conditions particulières. C'est un film qui a eu beaucoup de difficultés à se monter, mais je crois que le résultat est à la hauteur de nos espérances, donc on est très heureux de ça.
Et bien en tout cas, le résultat est là. Alors, on va parler de Demain nous appartient quand même aussi, Patrick, parce que tu as fait ton arrivée cet été, parce que même s'il nous reste deux épisodes inédits de Camping Paradis que vous avez tourné cet automne, qu'on découvrira au premier semestre 2022, vous reprendrez le tournage en avril, et entre deux, du coup, eh bien tu fais ton retour aussi dans Demain nous appartient, dans le rôle du beau-frère de William.
Exactement, exactement. C'est un personnage qui me plaît, qui m'amuse, qui est un peu aux antipodes de Xavier.
C'est ça, un baroudeur en quelque sorte, un voyageur.
C'est une espèce de baroudeur, un type qui a passé 8 ans en mer avec sa femme et son fils, un peu à l'écart des contraintes de la société et du cadre, et qui décide, in fine, grâce ou à cause de son fils, de s'installer à Sète, car après 8 ans de mer, il a besoin lui aussi d'avoir une vie sociale, une vie affective, une vie de jeune gars de 20 ans. Et donc, du coup, ma petite famille décide de s'installer à Sète et de vivre l'aventure sétoise. Voilà. Comme tu le sais, c'est une quotidienne. Et donc, du coup, ça, c'est aussi un nouveau challenge pour moi que de travailler dans une quotidienne où ton personnage et ton parcours évoluent de jour en jour au gré des scénaristes et des événements. Donc, c'est très excitant pour moi de pouvoir jongler entre Camping Paradis et Demain nous appartient. Parce que c'est deux façons de travailler très différentes. C'est deux personnages très différents.
Donc du coup, on t'y retrouve bientôt dans Demain nous appartient. Là, t'as repris à tourner.
Du coup, j'ai tourné un peu là cet automne, et là je reprends effectivement de manière plutôt intensive en début d'année les tournages de Demain nous appartient.
Avec une grosse intrigue du coup.
Avec des grosses intrigues que vous découvrirez à l'écran.
Très bien. Bon.
Derrière de secret, il y a des belles histoires. J'étais justement à rendez-vous avec les auteurs là récemment. Et, Il y a des chouettes choses qui arrivent. Ça va être très bien. Je suis très content.
Merci Patrick en tout cas d'avoir été avec nous. On se retrouve donc ce soir. Les Bleus font du ski, l'épisode de Camping Paradis à ne pas rater, dont on entend parler depuis si longtemps et qu'on va être heureux de découvrir ce soir, cher public. Et puis évidemment, surtout, on te retrouve aussi dans Demain nous appartient très prochainement, du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1 toujours. Merci Patrick.
Absolument. Merci à toi. Merci beaucoup.
Les amis, j'ai l'honneur de vous annoncer que l'équipe du Camping Paradis est officiellement en vacances.
C'est quand même nos premières vacances ensemble, les copains.
Oui, mais ça va être comme au camping, mais sans travailler.
Ah, ne rien faire, se reposer.
Ah bah c'est sûr que toi ça va te changer, hein.
Ah bah ouais.
Et toi ça va, t'es pas trop déçu que Steph soit pas venu?
Ah bah si, c'est sûr, on va me manquer, hein. Mais bon, c'était important ce stage de pédiatrie pour elle. En tout cas, c'est hyper sympa que ton père nous a invités dans son hôtel.
Oui, alors...
Attends, moi j'ai vu les photos sur internet, ça a l'air magnifique, c'est juste au pied des pistes, on va être bien.
Ouais, bah je sais pas, hein, j'attends de voir. Hein.
L'invité d'honneur de la semaine.
Allez, un sujet qu'on explore rarement et pourtant tout le monde y est attaché à ce sujet quotidiennement. En plus, c'est la météo. Et aujourd'hui, eh bien, on a le Graal, hein, quand même, il faut le dire, puisqu'on a le monsieur météo de TF1, Louis Baudin, qui est avec nous. Bonjour Louis.
Bonjour.
Alors à mon époque, j'étais grand fan d'Alain Gillot-Pétré. C'est un peu la relève aujourd'hui qui est assurée avec vous, Louis, mine de rien, parce que la génération, ben aujourd'hui, elle est élevée avec Louis Baudin.
Oui, c'est vrai. Alors restons humbles. La météo m'a surtout appris l'humilité, mais c'est vrai que oui, c'est mon métier. Je suis d'abord météorologue, et puis après, j'ai eu la chance, vous l'avez dit, de pouvoir présenter ce métier-là sur TF1 et aussi sur RTL. Donc c'est une vraie chance, et j'essaie d'être un peu à la hauteur de cette chance et de cette responsabilité qu'on m'a donnée en essayant d'être le plus juste possible et le plus compréhensible pour le plus grand nombre, hein. Et c'est compliqué, hein, de faire de la pédagogie autour d'un sujet universel, des gens optimistes, pessimistes, donc il faut avoir une espèce de langage commun qui parle à tout le monde et le plus clairement et le plus simplement possible, et c'est pas tous les jours gagné, hein.
Et même si aujourd'hui ça a beaucoup progressé, même s'il y a des modélisations qui sont de plus en plus pointues, précises, bah aujourd'hui l'erreur peut être toujours effectivement, même si je trouve que ça se rétrécit quand même. Drôlement, on se trompe sur des quantités de précipitations, sur des passages où, mais rarement, voilà, quand on dit va y avoir une dégradation du temps, elle se produit vraiment. Ou quand on, ça va s'arranger, ça s'arrange.
Oui, vous avez raison. C'est vrai qu'on a quand même fait des progrès. Moi, j'ai commencé à 35 ans. J'ai commencé dans le sud et faire une bonne prévision de Mistral, c'était quand même très très compliqué. On se trompait encore. Aujourd'hui, vous avez raison. On se trompe pas sur une séquence de Mistral, sur une tempête qui va venir le lendemain, même sur un épisode de neige, ce qui est le phénomène le plus compliqué à prévoir, hein, parce qu'à 0 degré près ou 0,5 degré, ça peut changer, c'est de la pluie au lieu de la neige ou l'inverse, de la neige à la place de la pluie. Bon bah tout ça voilà, fait d'énormes progrès, mais c'est vrai qu'il y a encore des petites zones où on progresse, où on a du mal à progresser ou difficilement. C'est ce qu'on appelle les épisodes saisonnels. Vous avez vu ces orages qu'on prévoit dans le sud, bon, on a toujours du mal à les localiser. Alors à l'échelle d'un département, on sait le faire, mais à l'intérieur, est-ce que ça va être plutôt Nîmes, est-ce que ça va être plutôt Montpellier, est-ce que c'est plutôt un peu plus haut ou plutôt en bord de mer? Là encore, on touche aux limites de ce qu'on sait faire.
Comment se fabrique aujourd'hui un bulletin météo à la télévision?
En fait, tout commence à minuit. Vous savez que c'est sur le réseau de minuit. Quand on dit le réseau de minuit, c'est l'heure GMT, où on va relever le temps qu'il fait partout dans le monde. d'un seul coup, à minuit pile, paf, toutes les stations dans le monde vont donner leurs informations. Ces informations, elles circulent sur un réseau international et elles arrivent dans tous les pays, hein, puisque de toute façon, pour faire une bonne prévision, ça faut le savoir, c'est important. Une bonne prévision là, dans l'ouest de la France, eh bien, il faut connaître le temps qu'il fait partout dans le monde. Donc, on commence, ça commence à minuit, on collecte toutes ces données, elles rentrent dans le calculateur de Météo France qui est installé à Toulouse. Là, le calculateur, il va travailler à peu près pendant 2 heures avec toutes les équations de la thermodynamique, de la cinématique, et à la fin, il va sortir ce qu'on appelle un modèle. C'est-à-dire qu'effectivement, ce sont des cartes un peu brutes, hein. Si je vous les montre, vous allez avoir du mal à faire de la prévision. Mais ça nous donne la prévision de pression, de température, de la masse d'air, l'évolution, ce qu'on appelle les centres d'action sur l'Europe de l'Ouest, sur la France, et ça en surface, en altitude et à différents niveaux. Et c'est à partir de là que le prévisionniste il commence à travailler. Il est en gros 4 heures du matin et à partir de là, il commence à regarder. Alors ce centre d'action, c'est-à-dire que là on aura un peu de soleil, tiens le taux d'humidité, a peut-être un peu de brouillard et la perturbation elle est où ? Elle est là, donc on va la tracer là, puis l'après-midi. Et voilà, il élabore petit à petit ces cartes de prévision qui vont servir aux commentaires, donc à la personne qui va le commenter pour la radio ou encore en télévision. Ces cartes éditées vont servir de base aux cartes qui vont être fabriquées pour le média. Moi, par exemple, sur TF1, ces cartes, elles arrivent, il est à peu près 8-9 heures du matin à la rédaction de TF1. Là, je prends cette carte-là et je vais ensuite envoyer à des infographistes qui vont la traduire en quelque chose qui est broadcast, qui va être de qualité télévisuelle. Donc là, on fabrique les cartes. Puis moi, je les commente un peu. Je dis, tiens, tu mets un peu plus de pluie là, un petit peu moins là. Et on arrive à cette carte qui ensuite va rentrer dans la chaîne de préparation de TF1, dans la régie, où on va valider la carte, être sûr qu'elle est bien dans le circuit, et puis ensuite va arriver le moment du direct, où j'aurai donc cette carte et d'autres, puisque c'est tout un enchaînement, prêt à être diffusé. Et moi, pendant ce temps-là, je continue à regarder les observations, regarder si l'évolution correspond bien à ce qu'on a dit, est-ce que ça prend un peu d'avance, un peu de retard, et donc comme ça, quand je ferme mon commentaire, je vais dire, tiens, c'est un petit peu plus actif, ou là, ça va plus vite, ou là, regardez les brouillards, ou ça a l'air de persister un peu, donc ça permet de faire un commentaire un peu plus vivant sur ces cartes, donc qui ont commencé à être élaborées, c'est minuit.
Et d'interagir quasiment en direct au moment. C'est pour ça aussi que les bulletins météo sont en direct.
Ah ben exactement, hein, il faut qu'on colle au plus près de la réalité et surtout des dernières prévisions. Donc effectivement, quand on intervient, on est en direct avec le maximum d'informations et de pertinence pour être au plus près, au plus juste de la prévision.
Il n'y a qu'une prévision comme ça qui tombe par jour ou il y en a deux justement pour pouvoir après élaborer la carte du soir qui elle va servir souvent pour le lendemain?
Alors non, vous avez raison, hein, ça peut être réajusté, c'est-à-dire que les modèles dont je vous ai parlé, il y en a 4 par jour, il y a 4 réactualisations par jour, donc c'est minuit, après c'est 6h, 12h et 18h, et donc à chaque fois que de nouvelles cartes arrivent, on va pouvoir corriger, effectivement adapter la prévision. Donc les cartes que vous voyez le matin ou à midi pour le lendemain, elles peuvent être changées le soir quand vous allez revoir la télévision, donc ne soyez pas étonné si vous dites, tiens, mais ce midi, si vous la regardez 2 fois, la carte a un petit peu changé. Ben oui, au fur et à mesure que les modèles sont réajustés, au fur et à mesure, on ajuste également la prévision.
Ce qui expliquait que sur la chaîne météo, par exemple, eh bien, on voit tous les quarts d'heure le même cycle, entre 13h et 18h, et hop, à 18h, si vous regardez le cycle de 17h45 et celui de 18h, hop, ça change.
Exactement, hein, puisqu'on a une réactualisation des modèles, donc parfois, pas toujours vrai, hein, on peut avoir un réajustement des cartes en matière de nébulosité, de pluie, ou encore de température.
Bien vu. Louis, le bouquin « Nous sommes tous météo-sensibles », c'est le livre qu'il vous faut vous procurer. Comment expliquer aujourd'hui que les gens soient aussi sensibles à la météo ?
Il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, n'oublions pas que on est dans la météorologie. Dès qu'on est, on est entouré par une pression, une température. Donc, qu'on le veuille ou non, on vit dans la météorologie. Donc, on est façonné par cette météorologie. En fonction de là où on vit, même l'organisme va s'adapter à une température moyenne, à une humidité. On s'en rend pas compte, mais évidemment, c'est là où on va être le mieux adapté, là où on est né, là où on a vécu le plus souvent. Puis l'autre élément, c'est quand même l'amélioration de la qualité des prévisions. Donc, ça veut dire que maintenant, on peut un peu compter dessus, on a un peu confiance. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir prévoir un petit peu mieux son activité. Et puis quand on a une activité en extérieur, si on pratique justement, quand on a la chance d'être en bord de mer, la pêche, la voile, une activité nautique, forcément la météo est importante. Donc comme on sait que la prévision est un petit peu plus juste, eh bien on va la regarder un peu plus souvent, puis on va ajuster son activité, ou au contraire rester prudemment à terre si un coup de vent est prévu.
C'est un des programmes qui fait le plus d'audience à la télévision aujourd'hui, il faut toujours le rappeler. Nous sommes tous météo sensibles, c'est le livre que moi je vous conseille pour cette fin d'année. Il y a plein de choses intéressantes à l'intérieur. C'est le livre de Louis Baudin. Louis, on va terminer par... Alors, cet hiver dans le Grand Ouest. Est-ce qu'on va avoir un hiver froid? Est-ce qu'on va avoir un hiver rigoureux, plutôt au contraire doux et pluvieux? Moi, j'aime bien le froid et sec. Alors, je suis pas la noce, hein, depuis plusieurs années.
Eh ben, je n'en sais rien. Non, mais ça c'est important de le dire. Ben là voilà, là je c'est un des rares moments où je vais être un peu pas furieux, mais en tout cas il faut remettre les choses à leur place. Ben non, je suis désolé, malheureusement la météorologie aujourd'hui, au-delà de 4-5 jours, ben elle perd en fiabilité. Allez, je vais dire une semaine où on peut avoir une tendance avec un peu de sens. Après,
c'est pas une tendance saisonnière qui se dessine quand même malgré tout, mais qui malheureusement est souvent imprécise quand même.
Voilà, elle est totalement imprécise et moi je préfère m'abstenir que de faire de fausses promesses sur quelque chose qui n'est pas fiable. Voilà, aujourd'hui il faut l'accepter. Ben, c'est vrai qu'on n'accepte pas de pas savoir, hein, de pas pouvoir anticiper. Est-ce que je pars au ski? Est-ce que je pars à la montagne? Est-ce que je vais en bord de mer? Eh ben voilà, faut l'accepter. Hein, la nature nous résiste encore. Et donc aujourd'hui, scientifiquement et très honnêtement, non, je peux pas vous dire le temps.
S'il y aura de la neige à Noël.
S'il y aura de la neige à Noël, s'il fera froid, s'il fera chaud, est-ce qu'il y aura une belle saison de neige? Non, j'en suis bien incapable. Et faut le prendre comme ça. Voilà, faut l'accepter. Aujourd'hui, on ne sait pas encore faire des prévisions saisonnières fiables.
Et c'est la nature. Et c'est beau aussi comme ça.
Commande. Et c'est aussi très bien comme ça.
Merci beaucoup, Louis, d'avoir été avec nous et de nous avoir un petit peu éclairé, justement, sur tout ça. On vous dit à très bientôt et merci encore d'avoir été avec nous.
Merci à vous. À bientôt.
Le rendez-vous des stars. C'est Chut, on écoute la télé. Votre talk show radio.
Allez, surtout, ne bougez pas dans un instant. Miss Limousin, Miss Aquitaine, Miss Poitou-Charentes sont nos invités à quelques jours de l'élection Miss France. Alors, à tout de suite.
Bouge pas. Bouge pas. Chut, on écoute la télé. Reviens dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé. Le talk show radio.
Et on commence notre spécial Miss France. Vous le savez, c'est au Zénith de Caen samedi que ça se passe, évidemment, avec la remise de la couronne d'Amandine Petit. Elles sont nombreuses, elles sont 30 à vouloir briguer cette couronne, à vouloir lui enlever à Amandine. Et puis évidemment, nos Miss régionales sont là, elles sont dans la partie. On espère bien évidemment les soutiens que l'une des trois va remporter peut-être eh bien la couronne de Miss France. Et on va commencer par en parler avec Ambre Andrieux, notre Miss Aquitaine. Bonjour Ambre.
Bonjour à tous, bonjour Alain.
Merci d'être avec nous, Ambre. Alors, tu as été élue Miss Aquitaine, c'était en septembre dernier. Là, ça y est, voilà, voyage de préparation. Vous êtes à Caen, tout en train de nous préparer cette élection avec un rythme effréné. Donc déjà, merci de nous consacrer ces quelques minutes, parce que je sais que les répétitions sont intenses. Hein. Ça va pas trop fatigué?
Ça va, on fait avec. Donc, on a un petit peu mal au pied, mais c'est pour la bonne cause, pour faire un beau show ce samedi. Donc, c'est une partie de plaisir.
Quel souvenir tu gardes de ce moment où tu as été sacrée Miss Aquitaine déjà? C'était un premier pas vers Miss France.
Ah ben, c'était le pas décisif, hein, clairement, parce que c'était ça, c'était le ticket qui nous donnait la possibilité de faire l'aventure, donc qui nous donnait la possibilité d'être là maintenant à Caen. Alors moi, mon gros souvenir, ça a été le résultat. Déjà le top 5, parce que j'étais appelée en dernière. Ensuite, le moment où on est deux à se tenir les mains, donc avec ma première dauphine, et puis là ils appellent mon nom. Donc ça, c'était le gros souvenir. Je me rappelle que j'ai fondu en larmes, j'ai vu toute ma famille, j'étais très heureuse en fait, parce que dans le noir du casino, j'ai vu que les chemises, en fait les chemises blanches de toute ma famille qui se levaient avec les bras, et j'ai encore l'image en tête, c'était génial.
T'as réalisé que t'allais partir défendre les couleurs de ta région à Miss France? T'as réalisé tout de suite ou il a fallu un petit temps quand même? Peut-être même quelques jours, ça se trouve?
Ah, il m'a fallu quelques jours. Franchement, pendant une petite semaine, j'ai pas réalisé. Je me rappelle le soir même, Amandine Petit dans Miss France m'a dit « C'est bon, tu pars à la Réunion ?» Et moi, quand on me dit quelque chose, je suis toujours prête. Je suis toujours par contre. Et je lui ai dit en mode « Oui, je suis tout à fait prête. Je suis totalement pressée. » Et puis après, le soir, je me suis rappelée de cette phrase-là et je me suis dit: mais oui, c'est vrai, c'est toi qui pars à la Réunion, c'est toi qui as réussi, c'est toi qui vas représenter l'Aquitaine.
Qu'est-ce qui t'a décidé à te présenter à l'élection de Miss Aquitaine et là partir pour Miss France?
À la base, moi, je ne suis pas du tout dans ce milieu-là. Enfin, avant, maintenant un peu plus, vu que je fais aussi du mannequinat, mais...
Ouais, c'était pas forcément un rêve de petite fille pour toi.
Non, pas du tout. Franchement, c'était pas du tout un rêve de petite fille, parce que je me considérais pas comme jolie. En fait, j'ai fait un grand pas en avant, en fait, tout au long de ma vie, j'ai bien évolué. J'avais tout ce qu'il fallait pour ne pas faire Miss France, selon moi. J'avais juste la taille qui correspondait, parce que ça fait un peu plus de 10 ans que je fais plus de 1m70. Donc, toute ma famille, c'était « Oui, Ambre va faire Miss France. » Et moi, c'était « Non, je vais pas faire Miss France. » Et là, ce qui m'a décidé cette année, c'était en fait, de base, je suis à Bordeaux et je connais très bien le Pays Basque. J'ai même fait 2-3 saisons là-bas. Et en fait, c'est une région que j'adore. Et j'ai une amie qui s'est présentée à Miss Tiganos.
Et là, donc, du coup, tu lui as dit « Pourquoi pas moi ?»
En fait, elle m'a dit « Si je gagne, tu te présentes aussi. » Mais bon, du coup, on l'a fait en un an décalé. Et, Et c'est ce qui a fait le déclenchement, en fait, parce que j'ai rencontré tout le comité, donc c'est un milieu qui est très différent, et en fait, pour moi, il est très en accord avec l'Aquitaine et la Nouvelle-Aquitaine.
Alors, tu es étudiante en dernière année d'ingénierie en physique-chimie, mais pas que, parce qu'il paraît que tu es animatrice télé aussi. Raconte.
Oui, c'est pour TV7. On a fait une nouvelle émission cette année, on finit la première saison de là, et en fait, c'est une émission qui s'appelle Bivouac. Avec actu à la fin pour l'Aquitaine, en fait, parce que c'est une émission, un nouvel Aquitaine.
Eh ben
donc
oui.
Cette année, on a fait un épisode quasiment par département, et en fait, par ce biais, on allait dans chaque département, et j'ai rencontré du monde, j'ai vu des super beaux coins, là où j'étais jamais passée en Nouvelle-Aquitaine, et c'est une sacrée belle région. Hein.
Ah, tu vois, ben maintenant, tu la connais même par cœur en tant que Miss, voilà, tu es prête en tout cas à défendre les couleurs de ta belle région.
Exactement. Franchement, c'est un honneur pour moi d'être à la fois ambassadrice au niveau de la télé parce que je rencontre plein de monde, mais en plus de ça, au niveau de la entre guillemets beauté, parce que pour moi, c'est ça en fait. Nice, c'est être ambassadrice de culture aussi. C'est pas juste être ambassadrice de beauté.
Mais écoute, je crois que t'es prête pour samedi. En tout cas, on te soutient, on est là. Ambre Andrieux, si elle est dans le top 15, va avoir besoin de vous, cher public, pour voter évidemment pour notre Miss Aquitaine. On compte sur toi, Ambre, et puis on t'envoie plein de bonnes ondes positives. Et puis à samedi, on va te suivre bien évidemment.
Merci beaucoup, je compte sur vous. Hein.
Merci beaucoup, Ambre. À bientôt.
Le rendez-vous des stars. C'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Et voilà, après l'Aquitaine, eh bien, on va passer du côté du Limousin. Et oui, direction la Haute-Vienne, la Corrèze, la Creuse, avec Julie Bève, qui est notre Miss Limousin 2021, et qui est en ligne avec nous. Julie, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et merci à Ambre de nous avoir passé à toi aussi. Alors Julie, toi tu incarnes le Limousin de la partie Nouvelle-Aquitaine. Tu as été élue le 1er octobre dernier. Là, tu rentres toi aussi évidemment de la Réunion. Tu es en pleine répétition à Caen. Pas trop fatiguée, même question qu'à Ambre, ça va ?
Alors, forcément, c'est un rythme assez intensif, mais pour le coup, il y a tellement d'adrénaline, c'est vraiment top. On garde le sourire, donc non, c'est la forme.
Bon, tu tiens le coup, c'est bien. Voilà, on a des misses qui tiennent le coup, nous, dans notre région, on est contents. Julie, on va faire un petit retour en arrière avec toi. On va retourner au 1er octobre, quand tu entends que c'est toi qui remporte l'écharpe de Miss Limousin 2021. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là?
J'ai été extrêmement émue et fière. Je ne m'y attendais pas vraiment, c'est vrai. Mais ça a été vraiment une soirée remplie d'émotions et j'en garde encore de très, très, très bons souvenirs.
T'as réalisé tout de suite ou pas que t'allais partir pour Miss France?
Alors, pas vraiment. Ma première réaction, en fait, ça a été plus le « waouh ». Je représente, en fait, ma région de cœur. Et en fait, j'ai réalisé par la suite que j'avais le ticket pour Miss France. Et c'est là, en fait, où petit à petit, on réalise... Sur le coup, je pense que c'est tellement d'émotions qu'on a du mal à se projeter. Mais voilà, c'est vraiment que du bonheur.
Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de te présenter à Miss Limousin ?
Je pourrais pas le dire que c'est vraiment mon rêve de petite fille. C'est vrai que j'ai toujours suivi, en fait, les émissions de Miss France. Mais j'ai juste fait une bonne rencontre au bon moment, en fait. Et j'ai eu des conseils, voilà. J'ai été curieuse, et surtout avec cette crise sanitaire, j'ai voulu aussi sortir un petit peu de ma routine, de mon quotidien, et me challenger, parce que c'est vrai que je suis une personne assez curieuse. Donc voilà, ce côté et ce monde de Miss m'a beaucoup attirée. Et je me suis dit, pourquoi pas? On se lance au défi, et puis finalement, je suis très contente d'en arriver là aujourd'hui.
Notre belle Léa t'a donné quelques conseils? Léa Graniou, notre Miss Limousin 2020.
Ah oui, Léa Graniou m'a donné beaucoup de conseils, et toutes les anciennes Miss Limousin me soutiennent amplement dans cette belle aventure, donc je suis très contente.
Alors, de quoi tu es passionnée, toi? Je crois que tu es passionnée d'équitation. Avant tout, c'est ton sport préféré, je crois.
Alors, je suis passionnée d'équitation, oui. Je fais aussi beaucoup de natation. Je pratique de la musculation. Je suis assez sportive. Et avant tout, je suis passionnée d'aviation, puisque mon métier, c'est d'être hôtesse de l'air, donc voilà.
Bon, du coup, le vol n'a pas été trop long pour la Réunion. 11 heures pour toi, c'était une balade de santé, quasiment.
C'était un bonheur.
Bon, là, évidemment, les répétitions s'enchaînent dans 5 jours. Voilà, au Zénith de Caen, vous allez faire le show en direct sur TF1. Qu'est-ce que tu auras envie de dire là maintenant aux gens qui t'entendent et qui, évidemment, seraient en mesure peut-être de voter pour toi samedi soir si tu es dans le top 15? C'est là qu'on aura besoin de vous dans le Limousin et dans toute la région Nouvelle-Aquitaine pour voter pour Julie. Qu'est-ce que tu as envie de dire là aux auditeurs?
J'ai envie de dire déjà que je suis extrêmement fière d'avoir ma place dans cette très belle aventure, que je donnerai le meilleur possible, que je resterai moi-même lors de cette élection. Je compte sur vous, la Nouvelle-Aquitaine bien sûr, et le Limousin pour m'emmener le plus haut possible si je fais partie de ce top 15, puisque ce serait avec fierté que j'aimerais représenter la France, voilà, à cette élection.
Il y a une cause qui te tient à cœur particulièrement, Julie ?
Alors oui, et moi, la cause qui me tient à cœur, ce serait vraiment l'environnement, voilà. J'aimerais apporter ma pierre à l'édifice pour qu'on puisse dépolluer nos belles régions de France, parce que c'est important pour l'avenir, comme on le dit toujours. Voilà, c'est des petits gestes, mais ça change beaucoup.
Tu redoutes quelque chose de particulier sur le direct de samedi soir ? Est-ce que tu as une pression particulière ou ça va ? Tu y vas quand même assez assez détendu.
Alors, je dirais pas que je suis détendue, mais je pense comme un petit peu toutes les candidates, ce serait la chute sur scène, pas top. Mais sinon, voilà. Après, au niveau du discours, c'est pas la chose que j'appréhende le plus. C'est vraiment plus le direct, enfin la petite chute sur scène, voilà. C'est l'imprévu qui peut mettre la petite dose de stress.
Bon, c'est ce qu'on ne t'espère pas. Voilà, on t'espère un top 15, mais pas une chute, Julie, en tout cas.
Exactement. Hein,
on t'envoie plein d'ondes positives. En tout cas, on te retrouve en direct sur la scène du Zénith de Caen. Ça sera donc samedi soir à 21h05 sur TF1. Le temps d'un petit générique de Miss France. Et puis, ben, tu vas nous passer notre Lolita Ferrari, également notre Miss Poitou-Charentes, qui est pas loin de toi, pour terminer, eh bien, ce trio de Nouvelle-Aquitaine auquel on met l'honneur aujourd'hui. Merci beaucoup, Julie. À très vite.
Merci à vous. Au revoir.
Et voilà, on est de retour. Merci Julie, en tout cas. Et donc, on est de retour avec Lolita. Lolita Ferrari, notre Miss Poitou-Charentes, qui normalement a récupéré le téléphone. Bonjour Lolita.
Bonjour tout le monde.
Eh bien oui, elle est là Lolita. Merci d'être avec nous et de prendre ces quelques minutes en pleine répétition d'élection de Miss France samedi soir au Zénith de Caen et en direct sur TF1. La pression monte pour nos Miss qui sont de retour de la Réunion et retour un peu dans le froid de l'hiver chez nous. Ça va Lolita ? Comment ça s'est passé la Réunion ?
Salut Alain. Alors la Réunion s'est très bien passée. Je dois dire que je suis un petit peu en choc thermique. J'avoue que ici il fait très froid et que le soleil me manque déjà de la Réunion.
Eh ben oui, mais il y a le soleil de la Normandie avec Amandine Petit qui va remettre la couronne eh bien au Zénith samedi soir. Alors Lolita, tu es en pleine répétition. Est-ce que ça va déjà ? Est-ce que tu es pas trop fatiguée ? Est-ce que tu tiens le coup ?
Alors, c'est vrai que le rythme est très très intensif, mais on tient le coup, on se motive, on a envie d'offrir un show digne de ce nom, de présenter notre belle promo. Donc c'est dur, mais ça vaut le coup. Ça va être très très beau à voir.
Et vous avez vu, hein, nos trois Miss, elles sont à fond. Hein. Bravo hein, les filles, en tout cas, de tenir voilà aussi bien le rythme. Lolita, on va faire un petit retour en arrière. On va revenir à début septembre. C'est au Futuroscope de Poitiers. Tu as été élue Miss Poitou-Charentes. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Est-ce que tu as réalisé tout de suite ou pas ?
Non, j'ai pas réalisé tout de suite. Mais c'est vrai, comme je le dis toujours, j'étais remplie de joie, d'émotion, d'euphorie. J'ai ressenti plein de choses à la fois. Mais surtout, un gros soulagement parce que je savais que c'était ma dernière chance de participer à Miss France, de réaliser mon rêve. Donc forcément, j'étais très, très heureuse.
Est-ce que tu as réalisé tout de suite aussi que tu avais ton ticket pour Miss France qui venait de tomber là ? Ou est-ce que tu l'as réalisé un petit peu plus tard, ça ?
Franchement, je crois que j'ai mis du temps à réaliser quand même. J'ai pas réalisé sur le coup. Il me fallait un petit peu de temps, je pense.
Ça représentait quoi pour toi, Miss France ? C'est un rêve de petite fille ? C'est venu plus tard ? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de te présenter ?
Oui, c'est un rêve de petite fille. Je regarde depuis que je suis toute petite. Ça m'a toujours fait rêver de voir ces filles. Moi, à l'époque, je les trouve toujours très belles. Elles respirent la confiance en elles. Et c'est vrai que j'avais envie de ressembler à ces filles. J'avais envie d'être à leur place. Donc en grandissant, c'est devenu vraiment un rêve de jeune femme. Et aujourd'hui, Miss France, ça permet de faire tellement de choses. C'est un tremplin pour la vie. C'est vivre des moments magiques, inoubliables. On voyage, on rencontre tellement de belles personnes. En plus, c'est là qu'on est, on est gâtés, on va pas se mentir. Moi, j'ai jamais été aussi gâtée depuis que j'ai été élue. Donc oui, c'est un rêve et c'est un plaisir de vivre ça. Je le regretterai jamais.
En tout cas, si tu es dans le top 15 samedi, il va falloir que Poitou-Charentes soit derrière toi et vote pour toi pour t'amener eh bien déjà au top 5 et peut-être vers la couronne. Qu'est-ce que tu as envie de dire là aux auditeurs qui t'entendent ? Qu'est-ce que tu leur dirais pour voter pour toi si tu es dans le top 15 samedi ?
Déjà, j'ai fait de mon mieux pour donner le meilleur de moi-même pour représenter ma région comme il se doit. Et c'est vrai que j'espère que le Poitou-Charentes me soutiendra, me portera vers la fameuse couronne de Miss France, et je leur redonnerai, et je sais que je leur rendrai, je remercierai les gens, et j'attends beaucoup de soutien, mais j'espère pouvoir compter sur eux, en tout cas.
Qu'est-ce que tu redoutes le plus sur le direct de samedi ?
J'imagine un petit peu comme tout le monde, on appréhende toujours peut-être une chute ou un bug sur le discours, mais globalement non, il y a rien d'autre que j'appréhende plus ou moins. J'ai envie de profiter surtout, j'ai envie d'essayer de mettre toutes mes peurs, toutes mes angoisses de côté, on va dire, pour profiter comme il se doit, parce que Miss France, ça se vit qu'une fois dans notre vie, donc c'est le moment ou jamais.
C'est clair, il faut en profiter un maximum, Lolita, et j'espère que voilà, vous allez toutes les trois nous épater dans notre belle région de Nouvelle-Aquitaine. En tout cas, on est déjà fiers de votre parcours, à toutes les trois, à Ambre, Julie et à toi, et puis de ces belles amitiés qui naissent aussi, parce que Miss France, c'est une histoire et une aventure humaine avant tout.
C'est ça, j'ai rencontré toutes les filles de ma promo. Franchement, on a eu une promo au top. Je suis très, très contente. Maintenant, je compte une amitié dans toute la France et en Outre-mer. Donc, c'est génial.
Bon, bah, c'est super en tout cas. Enfin, voilà, exit la Réunion, retour à Caen. C'est parti pour les répétitions intensives. Vous nous préparez un show digne de ce nom. Alors, on sera là pour te soutenir, bien évidemment, aussi. Lolita, rendez-vous samedi à partir de 21h05 en direct du Zénith de Caen et sur TF1 pour suivre l'élection de Miss France. On t'embrasse et on te laisse retourner tout de suite, évidemment, aux répétitions. À bientôt, Lolita. Merci.
À bientôt. Gros bisous à tout le monde.
Lundi prochain, dans Chute, on écoute la télé.
Et la semaine prochaine, deux coups de cœur ciné, le film Cher Léa, et puis Grégory Montel sera de retour avec le réalisateur Jérôme Bonnel, du coup, et puis Mes très chers enfants également, à l'honneur avec sa réalisatrice, ainsi que Didier Bourdon et Ben, qui seront nos invités exceptionnels. Vous l'avez compris, on va encore pas s'ennuyer. Allez, n'oubliez pas, j'ai le plaisir de vous accompagner tout au long de la semaine avec La Quotidienne, du lundi au vendredi à 10h07, midi 7 et 16h07 sur Attitude. Retrouvez également cette émission en podcast dès 20h ce soir sur notre site internet onécoutelatélé.com. Elle sera également rediffusée demain soir à 19h. Et pour rester connecté avec nous, plusieurs solutions, notre application pour iPhone et Android, Chute, on écoute la télé, nos pages Facebook et Instagram, bien sûr. Et je vous retrouve aussi lundi prochain, dès 13h, pour la grande hebdo de Chute, on écoute la télé. D'ici là, passez une très belle semaine à l'écoute de nos programmes sur Attitude et je vous dis à demain pour La Quotidienne.
Chute, on écoute la télé avec votre espace culturel Leclerc de Barbezieux, votre référence culturelle en Sud-Charente.
Chute, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse, un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.
Chute, on écoute la télé avec Vue d'ici, volets battants, coulissants ou persiennes innovants, fabriqués en Charente-Maritime. Vue d'ici, le seul et unique volet en composite monobloc à isolation ultra performante et au veinage bois issu d'empreintes naturelles. Vue d'ici, le meilleur volet à tout point de vue.